Le musée. Le musée, il y a un musée à Crépy. Mais oui, le musée de l'archerie. La coulisse. Pourquoi les coulisses? Bon, on va voir. Ouais, allez, c'est parti. Le musée à coulisses.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur RVM Radio Valois-Mulhouse. Et nous sommes avec l'équipe du musée à coulisses, qui est le musée de l'archerie et du Valois. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Alors il y a Marion et Marie. À cette époque de l'année, le musée est fermé, mais quand même, ces dames travaillent pour vous dire des petites choses autour du musée. Alors en octobre, c'était sur l'archerie extra-européenne. Au mois de novembre, c'était sur le récollement. Et au mois de décembre, sur le Saint-Sébastien. Et ce mois-ci, c'est sur quoi mesdames?
Alors, comme tu nous l'as dit, Frédéric, c'est vrai que le musée est fermé au public, mais on prépare toute la saison. Et pour faire patienter nos chers visiteurs, nous voulions aborder un sujet qui est très représenté dans les collections du musée, et notamment dans les arts graphiques. Un sujet un peu transversal sur les héros de l'archerie, qui nécessitera probablement plusieurs parties, parce qu'en fait, la thématique est très riche. Là, pour cette première partie, nous voulions parler notamment des héros de la mythologie.
Les héros et héroïnes peut-être aussi.
Et héroïnes bien sûr.
Tout à fait.
Alors qui sont-ils au musée?
Alors tout le monde sait maintenant que l'arc est apparu dès la préhistoire, donc c'est une arme employée de manière très ancienne. Néanmoins la préhistoire, comme son nom l'indique, c'est avant l'apparition de l'histoire et donc de l'écrit. Ce qui fait que nous n'avons pas de traces écrites ou de traditions qui a été transcrite de héros qui auraient existé durant la préhistoire. Les premiers héros qui nous soient parvenus dans la civilisation occidentale en tout cas remontent à l'Antiquité grecque est reprise en grande partie par la civilisation romaine. Alors on la trouve notamment dans des grands écrits, ceux que l'on connaît d'Homère, donc qui est quand même un écrivain aussi un peu fictif, un auteur fictif, sûrement composé de plusieurs personnes, mais qui a laissé des écrits, des épopées qui sont rentrées dans la culture occidentale et qui ont été très très lus et repris et chantés, l'Iliade et l'Odyssée. On peut parler de ces deux écrits fondateurs, mais il y a également dans d'autres cultures, dans d'autres cosmogonies, des occurrences de héros archers qui sont très très intéressantes à mentionner.
Alors, excuse-moi Marion, qu'est-ce que c'est qu'un héros? Est-ce que vous avez une définition à nous donner?
Alors, dans la mythologie grecque, en tout cas, c'est un individu mi-dieu, mi-humain, qui a des capacités surhumaine et qui va se distinguer par ses faits et ses aventures hors du commun.
Vous allez nous parler de quel héros ?
On en a plusieurs. Si on commence par l'Odyssée, le héros principal de l'Odyssée, Ulysse par exemple, est un excellent archer. Et dans le dénouement de son épopée, après 20 ans de voyage et où tout le monde chez lui le croit décédé, il revient chez lui et sa femme, Pénélope, qui fait l'objet de nombreuses demandes de prétendants, une cinquantaine à peu près, a toujours repoussé le moment de choisir un remplaçant à son mari. Donc Ulysse arrive de manière cachée, sans prévenir personne à part son fils, et découvre tous ses prétendants qui veulent la main de son épouse. Et donc, avec son fils, ils vont monter un stratagème et annoncer à tout le monde que ça y est, finalement, Pénélope va enfin faire son choix. Et son choix va se porter sur le vainqueur d'une épreuve de tir à l'arc. Donc, le vainqueur devra réussir à bander l'arc d'Ulysse, qui est très, très dur, et réussir à s'en servir pour atteindre une cible tout en faisant traverser la flèche. Enfin, la flèche devra traverser 7 anneaux qui sont sur des haches. Donc une épreuve d'habileté et de force très importante. Et donc évidemment, tous les prétendants échouent. Et Ulysse, qui s'est joint à cette épreuve sous les habits d'un mendiant, va révéler son identité, reprendre son arc que personne n'a réussi à bander, le bander très facilement, atteindre la cible de manière aussi très facile et va s'en suivre un massacre parce qu'il va quand même tuer les prétendants. Ensuite, et récupérer sa maison et sa femme et voilà, sa famille.
Pourquoi il a tué ses prétendants quand même?
Ils avaient l'air assez prétentieux. C'était moqué de lui quand il est rentré dans la salle en mendiant. Et puis, du coup, voilà, il faisait la cour à sa femme, ça lui plaisait pas.
Ulysse est susceptible alors.
Un peu.
Ah. Bah, les héros grecs de manière générale, les dieux grecs.
Voilà. Puis il faut un peu de drame dans tout ça. Ouais. Effectivement, la mythologie grecque est assez friande de massacres, en règle générale.
Alors, ce héros qui s'appelle Ulysse, est-ce qu'on peut le voir au musée? Est-ce qu'il y a des représentations?
Alors, il y a une gravure qui actuellement n'est pas présentée, mais qui représente, enfin, qui figure justement Ulysse et les prétendants, donc juste au moment de cette compétition, de ce dénouement de l'épopée homérienne.
Est-ce que vous aimez Ulysse, vous, personnellement?
Ulysse est un personnage extrêmement intéressant pour ce qu'il incarne pour Homère. C'est celui qui est en quête perpétuelle et qui ne sait pas forcément dire non aux épreuves qu'on lui fixe. C'est un héros aussi assez malin. On le voit dans l'Iliade, c'est quand même lui qui a mis en place le stratagème du cheval de Troie. C'est aussi, comme disait Marie, un archer extrêmement habile. Donc c'est vrai que c'est un héros incontournable de la mythologie grecque. Mais ce qui est intéressant dans ce que racontait Marie, c'est que l'épreuve d'habileté se retrouve dans d'autres cosmogonies, et on voit là que l'arc et le fait de tirer la flèche a presque revêt une valeur morale, c'est-à-dire que pour être un héros et pour être aussi habile, c'est qu'on est forcément inspiré par les dieux et par quelque chose de supérieur qui le place au-dessus de ses semblables, au-dessus des hommes. Alors c'est vrai que Marie a étudié un peu plus la question, mais notamment dans les cosmogonies hindoues.
Excuse-moi, qu'est-ce que c'est que la cosmogonie?
La cosmogonie, c'est tout l'ensemble des récits, des représentations qui sont réputés comme fondateurs d'une culture ou d'une civilisation. C'est des mythes originels qui viennent expliquer la création du monde, par exemple, l'apparition de l'océan, de la nuit, du jour. C'est un moyen d'expliquer pour les hommes leur environnement en s'appuyant sur des faits légendaires, des récits mythiques.
Merci. Et tu disais donc...
En Inde, il y a à peu près... Enfin, on retrouve ce motif dans les mythologies et dans les histoires, dans les mythologies, de par le monde, de ce concours d'habileté, de puissance, souvent avec un prix prestigieux à la clé. Donc là, en l'occurrence, c'est la main d'une épouse. Et en Inde, on retrouve ce motif avec le héros de l'épopée du Mahabharata, qui est une des deux plus grandes épopées écrites en sanskrit et réputée être le plus long poème du monde en 200 000 vers, où le héros principal, Arjuna, pareil, gagne une de ses femmes lors d'un concours de tir parce qu'il est excellent archer. Voilà.
Mettre la flèche.
Alors, il
n'y
a pas les haches, les anneaux. Mais alors, lui, c'est faut tirer dans l'œil d'un poisson situé en haut d'un mât, tout en tirant à travers une roue qui tourne ou en se regardant dans un miroir. Enfin, c'est quand même très, très compliqué, là aussi. Très sophistiqué.
C'est des légendes?
Alors là, oui, Arjuna, c'est un mythe fondateur. Oui.
Très bien. Est-ce qu'on a le temps d'écouter une musique que vous
puisqu'on
avez choisie?
Puisqu'on parle d'Ulysse, effectivement.
Alors, qu'est-ce qu'on va écouter?
Alors, nous voulions rendre hommage à Ulysse, mais surtout à Brassens, avec sa chanson du Heureux qui comme Ulysse.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, qu'elle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, qu'elle est belle la liberté, battue de soleil et de vent, perdue au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
Vous écoutez RVM avec le Musée à coulisses, émission de l'Archerie et du Valois, de Crépy-en-Valois. Et nous retrouvons nos héroïnes autour des héros du musée.
Alors nous parlions tout à l'heure de Ulysse dans l'Odyssée, donc de son fameux grand voyage qu'on a évoqué. Il y a aussi un autre récit dans lequel il apparaît, qui est un récit de Homère aussi, l'Iliade, qui raconte plutôt la guerre de Troie, donc déclenchée entre les Grecs et les Troyens, qui a duré 10 ans, donc on est toujours sur des très grandes durées dans ces champs. Et l'arc et les flèches apparaissent à de nombreuses reprises dans ces récits, ne serait-ce que parce que c'est une arme très couramment employée par les guerriers et que ça fait partie de leur formation de base. Mais il y a aussi des anecdotes où l'arc et les flèches sont absolument déterminants. Donc parmi ces épisodes, on voulait évoquer notamment la manière dont Achille a été blessé et donc un peu condamné. Tout le monde connaît l'expression « le talon d'Achille », avoir un talon d'Achille. Et donc c'est vrai qu'Achille avait un seul point de vulnérabilité, c'était ce talon, puisque pour le protéger, sa mère Thétis l'avait plongé dans un fleuve, le fleuve des enfers, le Styx. Et donc pour le tenir, elle avait été obligée de le tenir par le talon. Du coup, c'était son seul point de faiblesse. Et lors de la guerre de Troie, il a été exposé justement à une flèche, celle de Paris, qui est un des héros principaux du conflit, et dont la flèche, guidée par le dieu Apollon, a atteint précisément cette zone de faiblesse. Et c'est ce qui l'aurait fait un peu tombé de son piédestal, alors que Achille était réputé comme un héros absolument invincible. Avec son ami Patrocle, ils formaient le duo qui ne donnait aucune chance aux Troyens de s'en sortir. Donc c'est vrai que là encore une fois, on voit l'importance de l'arc et des flèches et des archers, des héros archers dans ce récit. Et ce qui est intéressant en plus ici, c'est que on voit que la flèche est guidée, inspirée par une volonté divine, et notamment par le dieu Apollon. Apollon est un des dieux qui est le plus représenté dans nos gravures mythologiques au musée. Sa sœur jumelle Diane, qui est aussi appelée Artémis, est également très représentée, et tous les deux utilisent les arcs et les flèches. Ils ont des attributs différents puisque c'est une religion polythéiste, donc ils sont tous les deux vénérés dans l'Antiquité grecque et ensuite romaine. Apollon est le dieu solaire, le dieu de la beauté, des arts, qui peut apporter la guérison. Son pendant, sa jumelle, c'est Diane Artémis, qui est une déesse lunaire, une déesse chasseresse, qui assiste les femmes dans la procréation, les naissances, et qui a aussi un côté assez obscur, puisqu'elle peut être assimilée chez les Romains à Hécate, une déesse un peu infernale. Mais tous les deux sont très très régulièrement représentés avec un arc et des flèches. Diane ne serait-ce que parce qu'elle est chasseresse, et puis Apollon parce qu'il s'en sert comme un instrument de justice divine. On l'a vu avec Ulysse qui abat ses prétendants. Il faut se remettre aussi dans le contexte de la mythologie grecque. Les dieux ne sont pas des êtres parfaits. Ils sont même souvent moins parfaits que les hommes, en tout cas que les héros, et leur justice est assez arbitraire et souvent très cruelle. Donc les flèches pour, quand elles sont employées dans ces récits-là, sont souvent des vecteurs. C'est des vecteurs de mort, des vecteurs de maladie, ça peut être vecteur de guérison quand ils l'ont décidé, mais c'est vraiment quand ils le veulent, c'est presque par caprice. Et c'est également une forme de contamination, ça peut aussi inoculer l'amour, comme on le voit avec Cupidon, le fils de Vénus.
Mais Apollon, c'est pas le dieu de l'amour ?
Il a plutôt un côté dieu de l'inspiration et conducteur des muses, plutôt sur les arts et la musique.
Est-ce que vous auriez des œuvres liées à tous ces dieux, ces héros au musée ?
Alors du coup, de ceux qu'on vient de nommer, on a effectivement plusieurs représentations de l'éducation d'Achille. On a une gravure, une plaque de cheminée notamment. Et puis le duo Apollon-Diane, on a énormément d'art graphique. Notamment de Diane avec ses nymphes, sa cour, et dont une qui ressort du lot, Callisto. Donc là, pareil, il y a toute une histoire autour de l'arc et de la flèche, puisque Callisto a provoqué la jalousie d'Héra ou de Junon, selon qu'on se trouve en Grèce à l'époque grecque ou à l'époque romaine. Donc qui est l'épouse de Zeus ou de Jupiter. Et parce qu'elle a eu un enfant avec Zeus, qui se nomme Arcas. Héra, très jalouse, la transforme en ours. Et il s'avère que son fils devient un très très bon chasseur. Un jour, Arcas se retrouve face à sa mère, enfin il ignore que c'est sa mère, mais donc face à une ours, et s'apprête à décocher une flèche pour l'abattre. Et là, Zeus intervient, un peu pitié quand même de son ancienne conquête.
Mais sympa quand même. Je...
et donc subtilise, on va dire, Callisto et la transforme en constellation. Et c'est de là d'où est née la Grande Ours. La Grande Ours est née pour pouvoir sauver Callisto d'une flèche tirée par son fils, qui devient ensuite la Petite Ours, bien sûr.
Ah, c'est très poétique.
Oui, comme quoi il y a aussi de la poésie.
Marion et Marie, l'émission se termine. Est-ce que vous avez une conclusion ?
Alors, on aura encore beaucoup à dire parce qu'on a évoqué quelques héros archers, mais on ne peut pas, par exemple, ne pas parler d'Hercule qui, dans nombre de ses travaux, parmi ses 12 travaux, a dû employer les arcs et les flèches pour les accomplir. Et donc, Hercule, c'est quand même le héros grec aussi par excellence. Il y a tous les personnages légendaires comme les Amazones, les Centaures qui emploient les arcs et les flèches également pour se défendre. Et donc, cette partie-là pourra être un peu plus développée dans un second temps. On souhaitera aussi vous parler des héros justiciers, puisqu'en fait ils annoncent aussi ceux qu'on peut trouver à partir du Moyen-Âge, Robin des Bois par exemple, Guillaume Tell chez les Suisses, qui ont eux aussi des valeurs morales qui sont attachées à leur action. Et puis on fera même une incursion dans la pop culture, puisque de Chewbacca à Lara Croft, en passant par Legolas, voilà, les arcs et flèches sont très très présents aussi.
Eh bien, écoutez, merci. On se dit
au mois prochain.
Au mois prochain,
merci.
Au revoir.
C'était le musée à coulisses.